Bonjour à tous et bienvenue à LifePoint. Christ est ressuscité. Il est ressuscité, mes amis. Et j'espère que votre cœur est plein de joie et que vous avez passé une excellente semaine à préparer ce grand moment, ce grand événement aujourd'hui qui est la résurrection de Jésus-Christ. J'espère que vous avez passé du temps avec votre famille au pied du Seigneur, à le connaître, à apprendre plus de lui, à le prier, à avoir un cœur reconnaissant. Et une chose que j'adore, c'est que LifePoint est une église multiculturelle. Et bien souvent, le dimanche de Pâques, lorsque nous nous croisons, nous allons dire « Christ est ressuscité » dans notre langue. Alors souvent, on a « Christ est ressuscité » en français, « He's risen » en anglais. Et alors, j'ai aussi mes amis grecs. Et alors, il y a aussi peut-être d'autres nationalités que je ne connais pas. Et vu que nous ne pouvons pas nous réunir ce matin physiquement, j'ai envie de vous faire une petite activité. On va vous faire un peu travailler, pas seulement juste me regarder. Pourquoi dans le commentaire du live, vous n'écrivez pas « Christ est ressuscité » dans votre langue maternelle? Et si votre langue maternelle est comme moi le français, écrivez-le dans une autre langue que vous connaissez peut-être. Et aujourd'hui, nous rencontrons et j'ai des émotions mitigées. Parce que d'une part, comme je viens de le dire, Pâques est une grande fête pour nous. En dehors de Noël, c'est une grande fête pour nous. C'est comme la Coupe du Monde pour les chrétiens. Mais d'un autre côté, j'ai cette tristesse, cette déception que nous ne pouvons pas être physiquement ensemble. Et encore une fois, je suis heureux d'avoir toute cette technologie qui est mise à notre disposition pour avoir ce service en live. Et j'aimerais tellement, cependant, que nous puissions être ensemble en tant que corps physique. Mais un jour, mes amis, un jour, cela sera le cas à nouveau et ce sera incroyable. Imaginez-vous ce jour-là, imaginez-vous un instant à quel point je pourrais vous serrer fort dans mes bras lorsque je vous ouvre la porte en bas au rez-de-chaussée. Ce jour-là, nous resterons probablement un peu plus de temps au coffee room. Nous ne serons pas pressés d'aller dîner après le service lorsqu'il termine, mais nous passerons du temps à parler ensemble. Nous serons tellement heureux de voir ce jour-là les gens peut-être qui n'ont plus vu depuis quelque temps. Et imaginez Jordan. Je sens que ce jour-là, mes amis, Jordan, il va prêcher, il ne s'arrêtera plus. On va devoir lui faire hey, « time out, il faut arrêter, mon gars !» Et un jour, nous nous réunirons à nouveau et ce sera merveilleux. Un jour, tout cela sera du passé, nous nous assirons autour de la table et nous rappellerons de cette époque, celle où le monde s'est arrêté, celle où le monde s'est rendu compte de sa fragilité et de son impuissance. Ce moment où les hôtels étaient utilisés comme des hôpitaux temporaires, où la bourse était en chute libre, les écoles ont fermé, il y a plein d'événements sportifs et culturels qui ont été annulés. Et aussi quelque chose d'incroyable, c'est que les gens se sont battus pour du papier toilette. Et nous avons célébré la Pâque virtuellement. Un jour, c'est en fait une expression que nous utilisons pour parler à la fois du passé, mais de l'avenir. Nous pouvons parler du fait qu'un jour le confinement était si pesant que nous avions fait le rêve que l'école avait rouvert. Et en même temps, nous attendons avec impatience un jour où il y aura un vaccin contre le coronavirus et la vie redeviendra normale. Et aujourd'hui, je voudrais utiliser cette seule phrase, ou plutôt ces deux mots « un jour » pour parler du grand jour, le plus grand jour de l'histoire. Ce jour où Jésus est revenu d'entre les morts, où il est ressuscité. Et aussi ce jour où il reviendra pour mettre un terme définitif au péché et à la mort et inaugurer notre éternité avec lui dans son royaume. Mais voyons comment toute cette histoire a conduit à ce jour. Un jour, Dieu a commencé sa création. Il n'a pas tout fait en un seul jour. En fait, la Bible dit qu'il a créé le monde en 6 jours. Mais Genèse 1 nous dit qu'un jour, il y a longtemps, Dieu a parlé au néant et il a tout créé. Cela m'émerveille tellement. Il n'y avait rien. Il n'y avait que les ténèbres et il a tout créé. Quel Dieu, n'est-ce pas, mes amis? Je vous invite à prendre le début. Vous savez, les semaines passées, nous avons été dans Apocalypse, le dernier livre de la Bible. Et maintenant, ici, pour Pâques, nous revenons à Genèse, le premier livre de la Bible. Et nous prenons les 2 premiers versets. Genèse 1, 1 et 2. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Le jour au commencement, Dieu a créé. Il a commencé par les cieux, la terre, puis il a créé la lumière, le ciel, la mer, les plantes, les étoiles, le soleil, la lune, les animaux, et enfin sa plus grande création. Il a créé l'humain à son image. Un jour, Dieu a tout fait. Il a parlé. Et tout ce qu'il a dit est devenu réalité. Et il a trouvé que c'était bon. Sa création était parfaite. Sa création était bonne. Mais cela a rapidement changé. Le jour où le péché est entré dans le monde. Rappelez-vous, en Genèse 3, quand Adam et Ève ont acheté le mensonge, ont mangé le fruit défendu. Et les résultats ont été extrêmement dévastateurs. Le péché se propage aujourd'hui dans le monde plus rapidement que le coronavirus. Et le péché à lui seul a un taux de mortalité de 100%. Il apporte la mort et la destruction à tout ce qu'il touche, entraînant la désynchronisation de toute la création avec son créateur. Le monde s'affole et est bouleversé par le coronavirus, mais il cohabite depuis des milliers d'années avec le péché qui est morbide à 100%. Et pourtant, les gens ne semblent pas s'en rendre compte, ou alors ils préfèrent l'ignorer. Avant le péché, chaque molécule de l'univers, chaque petit atome était parfait, intact. Mais aujourd'hui, le péché a jeté une malédiction sur la création. Aujourd'hui, le virus peut se propager et tuer des milliers ou des millions de personnes. Aujourd'hui, les nations font la guerre contre les nations. Les gens se détestent. Les mariages s'effondrent. Il y a des enfants qui naissent avec un handicap ou qui meurent du cancer. Et les humains naissent en rébellion contre le Dieu qui les a créés, pourtant à son image. Le péché ruine tout. Ne cherchez pas plus loin. Le péché est la source de tous les maux de cette planète. C'est évident, ce jour-là, quand Adam et Ève ont péché pour la première fois, avant, ils avaient une relation parfaite avec Dieu. Mais après, ils étaient éloignés de Dieu et ils ne se faisaient pas confiance. Avant, il y avait la vie. Maintenant, ils allaient connaître la mort. Ils devaient se regarder vieillir et finir par mourir. Un jour, ils ont péché et leur péché a porté l'isolement, la séparation, la mort, le désespoir et la rupture à toute la race humaine, je dis bien toute la race humaine sans exception. C'est pour cela qu'on parle du péché originel. Ça, vous avez peut-être même, si vous n'allez pas à l'église, que vous ne connaissez pas Dieu, vous avez probablement entendu parler de ça un jour. Le péché originel. Tout être humain qui naît, naît pécheur à cause du péché d'Adam et Ève. Et ça, que vous vouliez l'accepter, que vous dites que c'est des bêtises ou peu importe votre raison, c'est la vérité. Nous naissons pécheurs. Ça fait mal, n'est-ce pas, quand nous prenions conscience de cela? Je me rappelle lorsque je n'étais pas chrétien, je suivais un cours dans une église sur le fondement de la foi chrétienne. Et je ne m'étais jamais vraiment intéressé à ça, vraiment, au péché, à ma condition, à ce que Dieu faisait, ce qu'il ne faisait pas. Mais j'ai vraiment pris conscience de ça, que j'étais pécheur, que j'étais condamné à vivre une éternité en enfer. Et cela, ça vous donne vraiment un seau d'eau glacée, une claque. Car la seule chose que nous méritons, c'est la condamnation à mort. Mais, et moi j'adore quand il y a un mais, les gars. Cela me rappelle l'épître aux Romains, et ceux qui me connaissent bien savent que moi j'adore Romains. Ça me rappelle quand Paul a terminé d'annoncer la mauvaise nouvelle, qu'il leur a assez donné le coup, il dit « mais, maintenant », en Romains 3, verset 21. Ça veut dire « mais maintenant » qu'il va... que ça implique qu'il va apporter un changement, il va parler d'autre chose. Et là, c'est ce qui nous intéresse. Dieu merci, il ne nous a pas laissés dans cet état de condamnation à mort, de rupture. Il a promis qu'un jour, il viendrait réparer ce gâchis du péché. Un jour, il donnerait de l'espoir aux désespérés et de la vie aux morts. Et c'est exactement ce que Dieu a fait. Un jour, il a envoyé Jésus-Christ. Lisons Galates. Chapitre 4, verset 4. Donc Galates se trouve dans le Nouveau Testament. Mais lorsque le moment est vraiment venu, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme, né sous la loi. Un jour, il y a environ 2020 années, Dieu a envoyé son fils pour réparer notre désordre, pour réparer tout ce chaos. Un jour, Jésus a quitté le ciel et est venu sur terre. Il s'est fait homme pour s'identifier à nous, pour mourir pour nous sauver, pour nous secourir et nous apporter la vie. La Bible dit qu'il était totalement humain. Ça veut dire que l'enfant Jésus pleurait quand il avait faim ou qu'il voulait qu'on lui change son pampers. Il a probablement construit des châteaux forts dans sa chambre et a mangé la nourriture du sol alors qu'il venait juste de jouer dehors sans s'être lavé les mains. Il a grandi, il a appris un métier, il s'est fait des potes. Et ses parents s'inquiétaient pour lui. Il ressentait, il montrait l'émotion. Il était totalement humain comme nous. Mais il était aussi totalement Dieu. Il n'a jamais péché. Il a transformé l'eau en vin. Il a marché sur l'eau. Il a fait voir des aveugles. Il a guéri les paralysés. Il a chassé les démons. Il aimait les pécheurs. Il réprimandait les chefs religieux. C'est ce qui l'a conduit à être torturé et crucifié sur cette croix. Lisons Marc maintenant. Marc est un des quatre évangiles, au chapitre 15. Je vais vous lire les versets 22 à 25 et ensuite le verset 37. Donc versets 22 à 25. Ils conduisirent Jésus à l'endroit appelé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne. Ils lui donnèrent du vin mêlé de myrrhe, mais il ne le prit pas. Ils le crucifièrent, puis ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort pour savoir ce que chacun aurait. C'était 9 heures le matin quand ils le crucifièrent. Verset 37. Cependant, Jésus poussa un grand cri et expira. Un jour, sur une colline appelée le Calvaire, aussi appelé plus communément Golgotha, qui signifie le lieu du crâne, Jésus a été cloué sur une croix en bois et y était crucifié. Jésus a vécu et un jour Jésus est mort. Et est mort d'une mort atroce qui ne méritait pas. Cette mort, c'est nous qui la méritions. Et il a été crucifié à notre place. Il ne méritait pas la mort car il est la seule personne qui ait vécu en n'ayant jamais péché, en n'ayant jamais enfreint la loi de Dieu. Il n'a jamais fait de convoitise ni menti. Il n'a jamais eu de commérage. Il n'a jamais maudit sur le coup de la colère. Il n'a jamais piqué sa crise d'adolescence. Et d'ailleurs, heureusement pour Marie et Joseph. Il n'a jamais agi de manière stupide ou égoïste. Il a toujours obéi à Dieu et n'est jamais tombé dans la tentation. C'est tellement vital. Et ça, c'est une clé, mes amis. Il n'a jamais péché. C'est pour ça que c'était le seul à pouvoir payer le prix, à nous délivrer. C'est parce que c'était le seul qui, même s'il était homme, était aussi pleinement Dieu. Il n'a jamais péché tout au long de sa vie et son ministère sur terre. Et il a pu donc être offert comme sacrifice acceptable pour nous tous les pécheurs. Lisons maintenant dans la seconde lettre aux Corinthiens, au chapitre 5, le verset 21. Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui devenions justice de Dieu. Un jour, dans le jardin d'Éden, Dieu a promis que la semence de la femme écraserait la tête du serpent, de l'ennemi. Un jour, Dieu a promis que son fils mourrait pour apporter la vie à ceux qui croient. Dans le jardin, Adam s'était tenu dans notre palais, mais il a échoué et il a porté la condamnation au monde entier. C'est pour ça que dans le Nouveau Testament, Paul dit « Par un seul, la condamnation est entrée dans le monde. » Mais sur la croix, Jésus est mort à notre place, prenant sur lui la condamnation de tous ceux qui ont mis leur foi en lui. Ainsi, un jour, il est mort. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Car la tombe ne pouvait pas le retenir. Matthieu, maintenant, encore un autre évangile, le premier en l'occurrence. Matthieu 28, les versets 1 à 6. Après le sabbat, à l'aube du dimanche, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le tombeau. Soudain, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair et son vêtement était blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Quant à vous, n'ayez pas peur, car je sais que vous cherchez Jésus, celui qui a été crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où le Seigneur était couché. » Un jour, il s'est levé et a mis à mort en sortant de la tombe. A mis à mort le péché et a remporté la victoire sur la mort en sortant de la tombe. Et tout ce qui pouvait nous séparer de Dieu n'avait plus le pouvoir sur nous. Ni le péché, ni la mort, ni l'enfer. Ce jour-là, Jésus a commencé à restaurer le monde à sa perfection originelle. Il a commencé sa campagne de victoire en mettant tous ses ennemis sous ses pieds. Vous voyez le Dieu? Vous voyez sa puissance, sa grandeur? Pourquoi nous les chrétiens disons qu'il est souverain et qu'il est au-dessus de tout, qu'il est le roi des rois, qu'il est le Seigneur des seigneurs? Ce jour-là, Jésus a posé un pied sur le péché et sur la tombe. Après sa résurrection, il a passé un peu plus d'un mois sur terre avec ses disciples avant de remonter au ciel pour prendre place à la droite du Père. Et les amis, c'est là qu'il se trouve aujourd'hui. Celui qui est pleinement Dieu et pleinement homme, Jésus-Christ, est vivant aujourd'hui. Vivant. Il n'est pas resté dans cette tombe, il est ressuscité. Pourquoi vous croyez que notre cœur est plein d'émoi, qu'il est plein de joie aujourd'hui? C'est parce qu'il est ressuscité, on sait qu'il est vivant. Il ne repose plus dans cette tombe. En raison de sa victoire sur le péché, il est tout couronné roi des rois, seigneur des seigneurs. Il est suprême sur toute chose. Et il construit son royaume tous les jours, alors que des gens viennent à lui par la foi. Rien ne peut se mettre en travers de son chemin. Écoutez bien ça, rien ne peut se mettre en travers de Jésus. Car il dirige la terre, il a la souveraineté totale et il a une sagesse parfaite. La Bible dit que de la croissance de son gouvernement et de la paix, il n'y aura pas de fin. C'est-à-dire que l'édification et la croissance de l'évangile de son royaume ne vont jamais avoir une fin. C'est bien pour ça qu'il n'y a pas vraiment de fin au livre des Actes. Parce que l'édification qui était commencée par Paul, puis Paul, dans son voyage, a amené l'évangile en Europe, mais ça n'a jamais cessé depuis lors, jusque maintenant. Et vous voyez le nombre d'années qui ont passé depuis lors. Et l'évangile continue, continue. Parfois, on n'a pas l'impression parce qu'on dit « Ah, mais telle église a fermé. Oh, l'ennemi va gagner. » Mais non, l'ennemi, il a perdu. C'est fini. Il n'y aura jamais de victoire. La victoire appartient à Christ. Et rien, ni personne, ni aucun événement ne peut empêcher son royaume de continuer de s'édifier et sa volonté d'être accomplie pour son royaume et ses enfants. Jésus est roi aujourd'hui et pour l'éternité. Mais l'histoire ne s'arrête pas encore. Il n'est pas juste monté au ciel et il n'a pas terminé l'histoire ici en bas. Regardez justement Actes dont je vous parlais tout de suite, chapitre 1, verset 11. Et ils dirent, « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel, du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. Un jour dans le futur, mes amis, le roi des rois, Jésus-Christ, reviendra pour achever son œuvre de construction du royaume. Il reviendra pour ressusciter tous les hommes, qu'ils soient bons ou mauvais. » C'est-à-dire, entre guillemets, qu'ils aient mis leur foi en lui ou pas. Et il les jugera tous. Il les jugera tous. Personne n'échappera au jugement. Après cette résurrection, son dernier ennemi sera détruit, la mort. À partir de ce moment, la mort et Satan seront jetés en enfer avec tous ceux qui l'ont rejeté. Puis la Bible dit, il fera descendre du ciel la nouvelle Jérusalem, la ville sainte, où il régnera pour l'éternité au milieu de son peuple. Nous serons avec lui et Dieu sera avec vous, avec nous. Ce jour-là, il n'y aura plus jamais de distanciation sociale, ni de séparation spirituelle. Pas de divorce, pas de décès, pas de chômage, pas d'insécurité, pas de maladie. Ce sera un lieu sans cancer, sans coronavirus, sans corruption. Cela va arriver, comme nous disons depuis le début, un jour. Et vous, serez-vous là ce jour-là? Un jour où nous retrouverons tous devant Dieu. Je l'ai déjà dit dans la semaine précédente. Et ce jour-là, la Bible nous dit qu'une seule chose comptera. Ce ne sera pas nos bonnes actions. Ce ne sera pas dit, oui, mais pendant le coronavirus, j'ai aidé ma voisine qui était toute seule. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose. Gloire à Dieu si vous pouvez le faire. Mais ce n'est pas ça qui vous sauvera. Ce n'est pas votre quantité d'argent que vous avez donné ou l'aide que vous avez offert à l'une ou l'autre personne. La seule chose qui comptera ce jour-là, c'est est-ce que vous avez vraiment cru Jésus? Est-ce que vous avez vraiment cru qu'il est venu sur terre, qu'il a vécu une vie parfaite, qu'il a mené vos péchés à la croix et qu'il est mort pour vous afin que vous puissiez obtenir ce pardon et que vous n'écopiez pas du jugement dernier. Voilà, ça c'est la seule chose qui va compter lorsque vous vous trouverez devant le Père. Et croyez-moi, on va tous s'y retrouver. Personne n'y fera exception. Alors que direz-vous ce jour-là quand vous vous trouverez devant le Père? J'étais une bonne personne, vous savez, j'allais bien à l'église de temps en temps, j'essayais de faire une bonne action par jour, comme ça je pouvais être coché dans ma checklist. Ah, BA est faite. Ami, si c'est ça que tu penses, tu es condamné à une mauvaise éternité. Si tu as confiance en tes propres œuvres pour te justifier devant un Dieu parfait et saint, laisse-moi te dire que tu as pris la mauvaise route. Ou bien alors dira-t-on, le Christ est mort pour payer le prix de mon péché, et un jour il est sorti de la tombe, il est ressuscité et a vaincu le péché, la mort, l'enfer. Et un jour, moi, misérable pécheur, j'ai mis ma foi en lui et toute mon espérance en lui. J'ai cru en sa parole, j'ai cru en ses promesses pour moi et pour son peuple. Pour ceux qui ont mis leur foi en Christ, Dieu les invitera un jour à entrer dans son royaume et ce jour deviendra pour toujours. Avez-vous mis votre foi en Jésus? Vous êtes-vous incliné devant lui en tant que votre Seigneur Dieu? Jésus n'est pas seulement le Dieu des chrétiens, il est le Dieu du monde entier. Que vous le croyez ou non, cela ne change rien à la réalité qu'il soit roi. Et comme nous le dit l'apôtre Paul dans la lettre aux Philippiens, j'adore cette lettre aux Philippiens. En fait, c'est ce qu'on appelle l'épître de la joie. Et ça peut vraiment un peu se dire, mais pourquoi de la joie alors que Paul, son auteur, écrit alors qu'il est en prison, enchaîné à cause de l'évangile? Mais j'aime bien ce qu'il nous dit. Que tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est le Seigneur. Que vous le croyez ou pas, mes amis, que vous le vouliez ou pas. Un jour, vous fléchirez le genou devant le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, et vous confesserez son nom, et j'espère de tout cœur, mes amis. Et je dis cela parce que je vous aime, que ce sera pour le louer, et pas pour l'implorer d'avoir pitié de vous. Et ce matin, si vous n'avez pas mis votre foi en Jésus-Christ, arrêtez de lui résister. Arrêtez avec votre rébellion, avec votre cœur orgueilleux, de dire, oui, mais qu'est-ce qu'il a vraiment à m'apporter? Mais quel est l'intérêt? Il va peut-être payer toutes mes dettes. Croyez-moi que Jésus-Christ peut bien plus que ce que vous croyez. Il peut tout, c'est pas compliqué, rien n'est impossible pour lui. La Bible nous dit, ce qui est impossible pour l'homme, pour lui, est possible. Profitez de cette présence. Parce que vous avez été créés, mes amis, pour l'adorer. L'homme n'a jamais été créé pour être le maître du monde. Mais il a créé pour diriger le monde sous la tutelle et la souveraineté de Dieu. Ça, c'est la vérité. Et sachez, la joie que vous apporte votre relation avec Christ est une joie éternelle, pas une joie temporaire. Parce que c'est ça le monde, c'est. Je veux avoir ci pour avoir ma joie. Ah, mais finalement, ouais, c'est bon, j'ai eu ma joie. Ah, mais maintenant, je voudrais ça pour avoir ma joie. Ou alors, non, j'ai pas de joie parce qu'en fait, je n'ai pas ce que je veux. Ou alors, ce que j'ai, c'est pas ce que je veux, donc je suis pas joyeux. Ici, on parle d'une joie éternelle, une joie dans le Seigneur. C'est pour cela que les chrétiens gardent toujours la joie, même dans l'épreuve. Ça veut pas dire que nous ne sommes pas affligés, mais ça veut dire que nous avons confiance en Christ, que nous savons qu'il est aux commandes du navire et que nous lui appartenons, que rien ne peut nous séparer de son amour. Est-ce que tu le crois ce matin? Et comme je l'ai dit la semaine passée, n'attends pas. Si tu sens que Jésus t'appelle à te repentir, et je te confirme, il t'appelle à te repentir ce matin et à le suivre, à changer radicalement ta vie, à lui demander pardon pour tes péchés et qu'il transforme ton cœur. N'attends pas que LifePoint t'envoie un email en disant « Nous allons maintenant nous réunir physiquement de nouveau pour aller trouver un des quatre pasteurs et lui parler de cet appel à la repentance que Jésus a mis dans ton cœur. » Écris-leur maintenant, soit à Ray Levy, Jordan Rayburn, Louis McCrea, Rob Lowe, Ou si tu es plus confortable en français, tu peux toujours passer par moi sans aucun souci. Écris-nous, nous voulons nous réjouir de ce que Dieu fait dans ta vie. Mais n'attends pas. Christ appelle maintenant, ce matin, à te repentir. Et lorsque nous mettons notre vie en lui, nous ne comprenons pas la Bible du jour au lendemain. D'ailleurs, même encore maintenant, après 10 ans, je ne comprends pas toute la Bible. Je n'ai pas cette prétention. Il y a encore tellement de choses dont j'ai besoin de grâce, de sa miséricorde pour me changer, me transformer. Mais chaque jour, je prends du plaisir dans la lecture de sa parole. J'ai une joie incomparable parce que je sais que mes épreuves, même si elles me font souffrir, même si elles m'apportent tristesse, incompréhension, je sais qu'il œuvre tout pour mon bien et pour sa gloire. Alors prions ensemble, mes amis. Ô Père, tu es ressuscité, tu es ressuscité. Quelle joie que j'ai dans mon cœur, Père. J'espère que tous mes frères et sœurs qui m'écoutent ce matin ont la même joie. Merci, Seigneur, pour ce sacrifice que tu as fait à la croix, pour t'être livré aux pécheurs, avoir été torturé, cloué sur cette croix. Mais tu n'es pas resté dans la tombe, Seigneur. Après 3 jours, tu es ressuscité. Et tu es maintenant assis à la droite du Père, en train d'intercéder pour nous, en notre faveur. Tu es notre avocat, tu es notre médiateur auprès du Père. Alléluia, Seigneur. Seigneur, je te prie pour chaque personne qui trouve ce matin, ou qui lira ce message, qui entendra ce message plus tard, Seigneur. Touche son cœur. Attire-le à toi. Car nous, Seigneur, nous sommes les messagers de la bonne nouvelle, mais nous ne sommes pas ceux qui convertissons, qui rachetons les cœurs. Seulement toi peux le faire. Seigneur, que ce moment de Pâques ne soit pas la poursuite de la poule aux œufs de Milka, mais que ce soit, Seigneur, un moment où nous agenouillons devant le Père. Un moment où nous profitons, nous prenons du plaisir dans sa présence. Oh Seigneur, je ne lasserai jamais de prononcer ton nom, de dire que tu es le Seigneur des Seigneurs. Seigneur, que chaque personne qui ne te connaisse pas puisse recevoir de ton amour, ressentir ta paix là maintenant au nom de Jésus-Christ. Ressentir ta paix, ressentir ta main sur son épaule. Peut-être il n'a jamais pensé ni réfléchi sur sa condition, parce que peut-être tout son entourage disait « Oh, mais ça c'est des bêtises, c'est des trucs d'église, on ne vit plus au Moyen-Âge. » Mais Seigneur, tu es le même il y a 2000 ans, tu es le même aujourd'hui, tu seras le même à jamais, parce que tu demeures inchangeable, tu es immuable, Seigneur. Seigneur, dans le nom de Jésus, je te demande ces choses. Amen. Voilà, mes amis, je vous remercie vraiment d'avoir partagé avec moi ce moment dans la parole, à nous souvenir de comment Dieu a créé le monde, comment le péché est entré dans le monde et le plan divin de rédemption qu'il nous offre dans son Fils Jésus-Christ. Et vraiment, nous avons commencé, comme je l'ai dit au début, ce dévotionnel. Mais ce n'est pas parce que maintenant, voilà, Pâques c'est fini, qu'il faut s'arrêter, on va lire un petit verset de temps en temps. Non, je vous invite à continuer cette routine, parce que c'est une bonne routine, c'est une routine saine. Je vous invite vraiment à vous compromettre, à vous engager à faire cela. Rappelez-vous qu'il ne s'agit pas d'un sacrifice, mais d'un engagement pour le Seigneur, dans votre relation, votre intimité avec lui. Prenez du moment avec votre famille aujourd'hui. Et si votre famille vit loin, prenez le temps de les appeler par téléphone ou par vidéoconférence et leur raconter à quel point Jésus est votre point central, que Jésus est votre centre de votre vie. Je vous aime. Soyez bénis.